d'abord, je vais vous présenter Philippe Montagne, qui a une formation en cartographie de l'Université de Paris 1 et qui est ingénieur d'études en sciences de l'information géographique à l'Université de Pau et ancienne wikimédienne en résidence et à ce titre formatrice sur des projets Wikimédia.
Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je vais vous présenter un projet qui a été fait en 2024, donc sur l'Occitan sifflé. Et pour commencer, je vais vous faire écouter ceci. En visio, ça va être assez aigu.
Est-ce que tu partages ton écran sur Zoom? Je vais partager ton écran.
Donc je vous préviens juste en visio pour les personnes qui auraient l'oreille un peu sensible, c'est très aigu. Alors est-ce que vous avez bien entendu? Et alors je vais le repasser, est-ce que surtout vous avez compris? Ça veut dire donc adieu, ce qui veut dire donc bonjour, salut, amitié, enfin voilà, la manière de se présenter en occitan. Et donc, si vous ne connaissez pas... Je pensais juste changer la diapositive. C'est donc que de la langue sifflée. Donc de la langue sifflée, de la même manière que l'on peut murmurer, de la même manière que l'on peut crier, peut-être de la même manière qu'on peut peut-être chanter, c'est en fait une adaptation de la langue avec certaines particularités. Autre particularité, c'est qu'on ne peut pas l'apprendre dans les livres. C'est uniquement par apprentissage avec d'autres personnes. C'est un phénomène, vous pouvez le voir, je suis cartographe, donc il y a des cartes qu'on a fait remarquer dans cette présentation. C'est un phénomène qui se trouve partout dans le monde, mais à une échelle ultra localisée. Et donc, dans le continent européen, on ne l'a qu'à un seul endroit, c'est dans le Béarn, ici, donc dans les Pyrénées, là où je suis. Et l'importance de l'environnement est capitale. Capitale, vous le voyez ici avec donc, le village où on siffle. Voilà l'environnement qui est à gauche. Je vous laisse apprécier quand on va se promener sur place. On est en pleine montagne et donc on est donc en altitude. C'est un contexte économique où on est plutôt sur de l'élevage. Et dans les années 70, autant vous dire que quand on est éleveur et qu'on doit donc pouvoir communiquer avec d'autres personnes, c'est assez compliqué de pouvoir le faire de manière fluide. Donc c'est pour ça que dans le petit village de Haas, qui est donc ici, hein, là où il y a le pointeur, s'est développé l'occitan sifflé. Il s'est développé, mais il a ensuite disparu au moment de la déprise rurale. Donc l'occitan sifflé originel a totalement disparu, mais il y a une volonté de le patrimonialiser. Pourquoi ? Parce que l'occitan sifflé, les gens le sifflaient à Haas, mais la commune qui est juste en dessous, hein, qui est à une demi-heure à pied juste en dessous, ne savait pas qu'on sifflait. Donc ça s'appelle un tabou. Pourquoi ? On ne le sait pas, mais ça a aussi entraîné le fait que, pour patrimonialiser, c'était un peu plus compliqué. Il y avait une volonté de le patrimonialiser de la part de toutes les personnes qui mettent en avant la culture occitane, et puis aussi d'un point de vue géographique, d'un point de vue de paysage sonore. Donc attention à nouveau les oreilles, là c'est le village de Haas qui est donc sifflé. Voilà, Haas. Je vais juste passer la diapositive suivante, mais... Voilà. Et donc, c'est le contexte général de cette intervention, puisque en 2024, donc on est donc quatre dans le projet, mes trois autres collègues ne pouvaient pas venir. Donc, il y a donc Philippe Biou, qui est enseignant d'occitan et puis qui enseigne également l'occitan sifflé, donc le Siluardas. Il y avait donc Hugo Lopez, qui était Wikimédia en résidence à l'URFIS de Toulouse, l'URFIS qui est donc une structure qui forme dans l'enseignement supérieur et la recherche. Moi-même, j'ai déjà été présentée, et Camille Nous, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc Hugo Lopez était dans sa résidence dans le cadre du deuxième plan national sur la science ouverte, qui a déjà été abordé ce matin, le but étant de rapprocher l'enseignement supérieur et la recherche des projets Wikimédia que vous avez ici affichés. Et donc l'objectif c'était de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire avec Commons, qui est donc la médiathèque de Wikipédia, qui est une médiathèque multilingue, autant on a Wikipédia en français, en anglais, en allemand, en occitan. Sur Commons, tout est dans la même langue. Les deux fichiers sont uniquement dans le domaine public ou en licence libre, on l'a d'ailleurs abordé ce matin, et l'objectif de Commons, comme l'ensemble des projets Wikimédia, c'est d'avoir du contenu qui informe, qui instruise. Donc, sur Wikimedia, on va trouver des éléments qui peuvent apporter de la connaissance. Alors, mais ça s'appelle du coup, moi j'appelais ça un projet embarqué, ce qu'a fait mon collègue Hugo Lopez. Donc, il est venu à mon bureau avec donc, Philippe Biou, que vous avez ici à gauche, et il a enregistré le fameux Siluardas, donc le fameux Occitan sifflé. Vous avez ici la présentation en arrière, donc ça s'est fait. Et ça s'est fait avec l'application Lingua Libre, hein, qui est liée à la fondation Wikimedia. Lingua Libre, attention, quand vous mettez le doigt dedans, c'est hyper intuitif et très addictif. On peut faire facilement, enfin on se dit juste, oh je vais tester, mon dieu j'ai fait déjà 100 mots. Véridique. Voilà, on peut faire à peu près 800 mots par heure, ça va très 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 vite. Et la particularité, c'est que la contribution se fait directement sur Wikimedia Commons. L'importation se fait automatiquement une fois qu'on a fini avec Lingua Libre, et c'est donc au format Wave. Sur quoi est-ce qu'on a choisi de travailler au début avec Philippe Biou? Eh bien, j'ai proposé qu'on fasse une cartographie des toponymes en occitan sifflé, ce qui permet une découvrabilité assez facile. Donc c'est Philippe Biou qui a enregistré tous les toponymes que vous avez ici présentés en occitan sifflé. Et donc cette carte, elle est disponible sur GitHub, elle a été archivée sur Software Heritage, et elle a été présentée lors d'une exposition sur l'Occitan sifflé. Voilà, donc là la carte, elle est disponible en ligne, et les gens peuvent du coup entendre un petit peu les différents toponymes près de chez eux ou chez eux en Occitan sifflé. Alors ce qui me permet de faire un petit détour sur ce qu'on accepte sur Commons, on a parlé des licences Creative Commons, sur Commons on accepte uniquement les licences CC BY-SA, ou les licences CC BY, c'est-à-dire tout ce qui va être qu'on peut réutiliser, y compris pour de l'aspect commercial. Et Philippe Biou, lui, il a été beaucoup plus loin, il a accepté de mettre les différents sifflements en CC0. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il voulait donc utiliser cette licence, hein, qui n'est normalement, on ne l'utilise pas en France, elle n'est pas légale, mais lui, il a décidé de le faire de cette manière-là, puisque la licence CC0, il n'y a même pas besoin de citer la personne qui a fait l'enregistrement, ou bien la photo, ou en tout cas le document. Pour lui, il voulait que, étant donné qu'il n'y a plus que 3 siffleurs DAS au monde, dont lui, il voulait que ce soit diffusé le plus largement possible, qu'il n'y ait absolument aucune contrainte. Il voulait faire connaître l'occitan sifflé, c'est un vrai militant de la langue occitane. Et puis, quand je posais aussi la question de savoir, il y avait des gens pour qui il y avait peut-être des réticences à partager leur voix et autres, lui, il m'a dit qu'il ne se sentait pas vraiment concerné, puisque les sifflements, pour lui, ça ne montrait pas le paysage intérieur de la personne. C'était pas aussi intime ou aussi reconnaissable pour lui que la voix. Voilà, je ne suis pas une spécialiste, hein, j'ai dit que je suis cartographe, pas musicologue. Je pense que certaines personnes seraient peut-être capables de reconnaître à la voix ça. Mais en tout cas, c'est le choix qu'a fait Philippe Biou. Ce qui fait qu'au final, on a en libre accès 20 000 fichiers en occitan sifflé, ce qui en fait le premier corpus en occitan sifflé, voire même, on se demande, en modalité sifflée, hein, au monde. C'est une contribution directe au commun. On ne doit pas faire un premier enregistrement, puis après on va l'importer sur les projets Wikimedia. Non, on fait directement dedans. Et c'est une spécificité qui a été pas mal développée dans mon laboratoire. On contribue directement sur OpenStreetMap sur certains projets, on contribue directement sur Wikipédia. Donc c'était aussi la même chose pour Commons. Le corpus est donc en CC0, il est totalement interopérable, hein, il y a du web sémantique qui tourne derrière, s'il y a des questions. La visibilité est assez exceptionnelle, hein, c'est repris dans plein de langues sur Wikipédia, et il y a pas mal de réutilisations, hein, qui ont déjà été renseignées. Et puis ça se termine pas là, puisque le congrès permanent de la Lingua Occitana veut faire une application mobile entre l'occitan et l'occitan sifflé, et puis le français, et puis il y a également un projet de rajouter la version des mots, hein, il y a des toponymes, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des mots du quotidien sur le dictionnaire de Wikipédia qui s'appelle donc le Wiktionnaire. Donc on pourrait écouter les différents mots en occitan et en occitan sifflé. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet donc Wikifier la science qui a permis de réaliser ceci, et bien, il y a la page projet sur Wikipédia, il y a une collection HAL avec toutes les publications qu'on a faites, les cours. Je vous invite également, dans le cadre de la science ouverte, à participer à la Wikiscience Competition, qui est le plus grand concours de photos, de sons et de vidéos scientifiques au monde. Et évidemment, c'est spécialement pour le monde de la recherche. J'en profite aussi pour dire que si ma présentation vous a intéressé, vous avez des idées, je vais de nouveau être Wikimedian en résidence au mois de mars, donc n'hésitez pas à me faire venir dans vos laboratoires et vos BU, c'est dans le cadre toujours du Plan National sur la Science Ouverte. Et puis il me reste à remercier Philippe Biou, évidemment, de s'être laissé embarquer dans cette aventure. Et puis également les communautés Wikimedia et OpenStreetMap hein, qui ont travaillé derrière pour pouvoir faire tout ce résultat. Et dans le cadre de mon travail de Wikimedia en résidence, je me demande comment est-ce que je peux les créditer. Et donc une des pistes que j'ai en ce moment, c'est de les créditer sous Caninus, qui est donc la représentation allégorique de l'aspect collectif de la recherche. Donc bah, il sera co-auteur de cette présentation sur MAL. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci Delphine. On va maintenant accueillir Laurent Pugin. Donc Laurent Pugin a une formation de musicologue et d'informaticien à l'Université de Genève. Il est enseignant en humanité digitale et musicologie à l'Université de Berne. Il est co-directeur du Centre suisse du répertoire international des sources musicales, le RISM, une organisation qui inventorie les écrits sur la musique. Où il est responsable du développement de la production digitale et des contacts internationaux, et il est également membre du comité directeur de la Music Encoding Initiative.
Merci, tu sais où ma présentation ?
C'est bon, tu veux la partager ? C'est
bon. Non, tu l'as mis dessus.
Bonjour, donc effectivement, je travaille essentiellement pour le RISM, qui est le répertoire international des sources musicales. C'est un gros projet d'inventaire de sources, donc qui est évidemment très important en termes de métadonnées et de référents, de personnes, de sources, d'œuvres musicales. J'aurais pu vous parler de ça aujourd'hui, mais en fait je vais vous parler d'autre chose, puisque moi je m'occupe de la partie digitale de ce projet, le RISM Digital Center, qui est une infrastructure de recherche où on développe un certain nombre d'outils pour le travail avec les sources musicales. Et parmi ces outils, il y a une librairie de gravures qui s'appelle Verovio, qui est utilisée dans un certain nombre de projets de recherche, mais aussi de publication. Donc on s'était dit que c'était probablement un sujet important aujourd'hui. Donc ça va être plus la question des outils, de la science ouverte et comment structurer le développement d'un outil open source, notamment en lien avec les développements commerciaux et comment naviguer pour trouver un équilibre entre la partie ouverte et la partie non ouverte. C'est ça ? Alors, avant de... On peut mettre en plein écran ou c'est égal ? Avant de vous parler de Verovio et donc de cette brique, comme c'est dans le titre de la présentation, je vais vous dire quelques mots sur... les fondations qu'il y a sous ces constructions, qui est la MEI. La MEI, c'est une initiative collaborative pour définir un modèle pour les partitions musicales. Donc si vous connaissez un peu les questions d'encodage, vous connaissez peut-être, on a déjà parlé aujourd'hui de certains formats, on a parlé de musique XML. La MEI, c'est aussi du XML, mais c'est un XML qui est différent en ce sens qu'il se concentre plus sur la question sémantique, la structure de la notation, alors que Musique XML se concentre plus sur le fait d'être un format d'échange entre applications. Donc la MEI est plus riche et plus solide, et donc si vous voulez construire des corpus, je recommande vivement de vous pencher vers la MEI, de regarder la MEI, puisqu'il y aura à plus long terme une plus grande interopérabilité et aussi un format de données plus solide. Donc voilà, là c'est cette initiative qui était à la base du développement de Verovio, une communauté d'environ 400 membres avec un comité directeur et puis une équipe technique qui s'attelle à intégrer dans ce modèle, modèle XML, différentes descriptions pour la notation, avec une particularité aussi, c'est que c'est pas limité à la notation occidentale, mais aussi ou commune, mais aussi potentiellement la notation mensurale, les neumes, les tablatures, etc. Donc un champ plus large que musique XML et un projet très communautaire. Donc l'idée de Verovio, c'était vraiment d'avoir un outil de gravure qui puisse travailler sur cette structure où L'implémentation interne, et ça c'est un aspect important, même si c'est un peu technique, l'implémentation interne dans l'outil Verovio est vraiment celui de la MEI, ce qui permet d'implémenter le plus de ces possibilités de la MEI, puisqu'on évite tous les problèmes des formats de conversion. On peut faire des formats de conversion au début, ça va assez bien, mais si on va dans des choses plus complexes, c'est évidemment beaucoup plus simple et plus direct si on a la représentation interne directe. Donc c'est un outil qui a été développé au départ pour le RISM, donc pour les incipites du projet qu'on gère, mais qu'on a étendu en adoptant une philosophie et une structure que je vais présenter un peu aujourd'hui et qui a permis une adoption beaucoup plus large que celle de simplement notre projet. Donc parmi les principes de conception, un des points qui était vraiment important pour nous, c'était de repenser la gravure numérique. C'est un projet qu'on a démarré il y a une quinzaine d'années. Il y a 15 ans, il y avait déjà beaucoup d'outils de gravure numérique. Je pense particulièrement à des logiciels comme MuseScore ou Finale ou LilyPond. Ce sont des outils de gravure numérique, en ce sens qu'ils utilisent le numérique pour produire de la notation. Mais tous ces outils ont la particularité d'être pensés en termes de pages. On va mettre en page, on va produire un PDF, et puis on va peut-être imprimer ce PDF ou le publier en ligne, mais c'est vraiment la logique qu'il y a derrière tous ces outils de gravure. Nous, on voulait faire quelque chose de complètement différent, et quelque chose qui soit réactif et qui puisse être réutilisé beaucoup plus facilement, notamment s'adapter à différents écrans, et être très rapide dans la gravure. Donc ça voulait dire un outil de gravure qui est très rapide, puisqu'il faut pouvoir constamment refaire cette gravure, et puis aussi des contraintes en termes d'empreinte digitale qui doit être réduite, ça veut dire quelque chose qui ne soit pas trop gros et quelque chose qui ne consomme pas trop de mémoire aussi, si on veut travailler sur des plus petits outils. Un autre principe de conception qui est important, c'est de repenser non seulement la gravure, mais repenser la notation elle-même, c'est-à-dire que avec cet outil, on ne pense pas la gravure et la notation simplement comme une image, mais on pense la notation comme une interface. Et concrètement, ça veut dire que l'image qui est produite, ce n'est pas seulement un PDF ou un PNG, par exemple, mais c'est une structure qui est du SVG, qui est un format XML également, qui est un format XML qui s'intègre dans les navigateurs. Donc on a ici d'une pierre deux coups, si on peut dire, puisqu'on a l'image et en même temps la structure. Et ça veut dire qu'on peut, en plus d'avoir cette image, avoir un accès à la sémantique qu'on a derrière dans cette MEI. Donc c'est vraiment cette idée que la notation n'est pas seulement ce qu'on voit, mais aussi un point d'ancrage vers différents éléments dans cette notation, une mesure, une note, un phrasé, et qui permet à partir de là de faire des applications qui sont interactives avec des technologies tout à fait standards comme du JavaScript ou du CSS. Donc voilà. Alors beaucoup de programmes font du SVG, mais le seul qui le fait avec cette structure sémantique, c'est Verovio, et il y a vraiment là aussi un coût supplémentaire qu'on a dû surmonter pour pouvoir produire cette structure, cette image sémantique. Un autre élément, c'était aussi de créer quelque chose qui soit générique et modulaire, hein, puisque le but, c'est que l'idée de cette approche ouverte, c'est que les gens puissent réutiliser donc différents répertoires. Comme j'ai mentionné avant, dans la MEI, on supporte la notation mensurale, on supporte les nœuds. On supporte aussi différents formats d'entrée, musique XML, mais aussi Humdrum, pour ceux qui connaissent ça, ça a été mentionné ce matin dans le Humdrum Viewer, CMMI, un format mensural, peut-être que David en dira quelques mots après. Donc ça veut dire que Verovio fonctionne ici un peu comme un outil de conversion, c'est un peu un couteau suisse pour la notation, si vous voulez. Et puis différents formats de sortie, SVG, MEI pour faire des conversions, du MIDI, des timemaps pour faire de l'alignement. Donc pas mal de fonctionnalités. Et puis aussi une assez grande flexibilité dans les termes d'environnement. Alors là c'est un petit peu plus technique, mais il y a différents langages qui sont Illustré ici, C++, c'est la base, mais on peut faire du Python, on peut faire du JavaScript, on peut faire du Java, on peut faire du Swift, donc une grande portabilité, parce que c'est un outil extrêmement limité en termes de dépendance et extrêmement réintégrable. Donc voilà, il y a ici toute une liste de logos que j'ai mis de projets. Pour nous, c'était vraiment une grande surprise de voir comment cet outil a été réutilisé dans des environnements ou pour des projets extrêmement divers. Hein. Nous, on a commencé, comme je l'ai dit, avec des incipits, ça a été utilisé assez rapidement après dans le domaine de l'édition digitale, mais après, il y a beaucoup d'applications dans le Music Information Retrieval, pour de la navigation, pour de l'analyse, et puis aussi, pas mal de start-up qui ont utilisé ça, dans le domaine notamment de l'éducation, et je reparlerai un petit peu sur comment on a pu naviguer, collaborer avec ces startups, notamment en termes de licence et d'utilisation. Et donc, le dernier point, c'est l'aspect ouvert, donc l'aspect open source. C'est un outil qui est complètement open source. Il y a une licence dont je vais dire quelques mois après, gérée sur GitHub. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire, mais en tout cas, c'est pour nous quelque chose de fondamental. Et puis, une communauté qui s'est créée avec quelques éléments que je mets en évidence ici. Le nombre de contributeurs, alors 74 ou 74 en français, c'est évidemment un nombre assez élevé. Pour certains, c'est quelques lignes, mais disons, ici, on peut quand même montrer qu'il y a une communauté, enfin un certain nombre de contributeurs qui connaissent le code source, qui contribuent. On accepte aussi, on a 2021 accepté 250 pull requests, donc contributions externes, ça veut dire pratiquement une par jour, hein, c'est assez conséquent. Et puis tout en bas, on voit cette frise temporelle qui est à mon avis la chose dont on peut être le plus fier, c'est le développement depuis 2014, donc vous voyez que c'est vraiment non-stop, c'est un projet qui est extrêmement actif, qui est hyper actif dans le bon sens du terme. Ça continue vraiment continuellement, grâce à cet aspect ouvert et l'aspect open source. Alors, quelques mots sur cette licence et comment on collabore notamment avec des startups. Alors, c'est une librairie, c'est-à-dire que ce n'est pas un logiciel que vous allez complètement réutiliser ou installer, c'est un logiciel que vous allez intégrer dans votre logiciel. Alors, on a choisi une licence qui est un peu plus permissive que celle de MuseScore. Alors MuseScore, c'est GPL, c'est une des licences les plus restrictives, qui était un très bon choix pour MuseScore, puisque ça a permis à MuseScore de rester open source. Ce n'est pas possible de fermer le code de MuseScore, puisque le code a été mis sous cette licence qui est extrêmement contraignante. La nôtre, elle l'est un petit peu moins. Et donc, on permet à des sociétés, à des startups, d'utiliser cet outil qui est open source, dans un produit qui est commercial et aussi dans un outil qui n'est pas en code source ouvert. Donc ça, c'est tout à fait possible, mais il y a évidemment des conditions, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a aussi deux contraintes importantes. Une, c'est de donner des crédits. Alors là, évidemment, c'est aussi un peu la liberté de l'interprétation de chacun, mais on essaye de faire comprendre aux utilisateurs que c'est important de donner des crédits parce que ça montre aussi l'intérêt d'avoir des financements pour un projet de ce type. Typiquement, dans l'App Store, on recommande de mettre un lien vers Verovio. Mais bon, c'est pas toujours sûr que les gens le font. Mais en revanche, il y a une chose qui est très importante, c'est que c'est pas autorisé de faire des modifications à cet outil sans remettre le tout open source. Donc ici, on est dans du code source, mais peut-être qu'il y a aussi des réflexions à avoir dans les corpus. Est-ce que des modèles similaires pourraient s'appliquer? Je ne sais pas, mais ici, ça fonctionne très bien. Donc, ça, c'est une contrainte. Et puis, en fait, il y a encore une chose qu'on recommande, c'est de mettre le code source à disposition si on a des modifications. Si, par exemple, quelqu'un intègre une fonctionnalité d'alignement avec de l'audio, ça peut se faire. Mais on recommande que ce soit mis intégré dans le code base pour que d'autres puissent utiliser. Et là, évidemment, ça signifie que les contributeurs signent une licence avec nous qui permet cette intégration. L'avantage pour eux, c'est qu'ensuite, ils pourront plus facilement intégrer aussi les nouvelles fonctionnalités. Parce que si on se sépare, ça devient très très rapidement compliqué d'intégrer toutes les modifications. Donc en général, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé avec plusieurs startups avec lesquelles on travaille. Donc elles sont d'accord avec ces règles, d'accord de mettre à disposition. Et puis l'avantage, c'est que ça donne aussi des contributions externes pour l'ensemble de la communauté. Il y en a peut-être qui ne le font pas, mais voilà, ils prennent un risque, parce qu'effectivement, si ça, ce n'est pas fait, c'est une violation, particulièrement s'il y a des modifications et, qui ne sont pas publiées, ça, c'est une violation claire, et évidemment, c'est toujours assez facile de voir quel outil de gravure est utilisé, donc c'est quelque chose à éviter. Donc voilà un petit peu, si on veut... l'idée de science ouverte et comment la science ouverte permet de construire des choses. Donc, un pilier central de la MEI, Behind the Bar, c'est aussi un outil très intéressant, une recherche qui a été faite sur l'histoire de la gravure qu'on a utilisée. Smoofle, c'est un autre que je n'ai pas mentionné plus en détail, mais c'est aussi un format de description de fonte qui permet d'avoir des fontes ouvertes, donc on peut changer plus facilement de fonte. Et puis, donc, nous, on s'appuie sur tout ça. Pour créer Verovio, et puis évidemment la question, c'est comment les gens vont ensuite s'appuyer sur Verovio pour faire d'autres applications, avec quelques exemples que j'ai mentionnés assez rapidement. Je vais terminer avec encore un point non négligeable, celui du financement. Comment ce projet est financé? Alors on a la chance d'avoir ce projet d'infrastructure de recherche, qui est un financement à long terme pour le RISM, au sein de laquelle on a pu lancer ce projet. On a aussi la chance d'avoir un sponsor, qui est le Mozarteum et le Packard Humanities Institute, qui nous soutient depuis 2016. Si vous voulez faire la même chose, vous êtes évidemment bienvenus, donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis on a aussi des financements qui sont plus ciblés par des projets de recherche. J'ai mis quelques exemples ici, de projets qui ont contribué ou contribuent à des fonctionnalités spécifiques. Là aussi, si vous avez des projets pour lesquels vous aimeriez voir des développements faits dans Verovio, c'est une façon de soutenir le projet. Et puis finalement, on est en train de discuter l'idée de mettre en dual licensing, ça veut dire une licence open source et une licence commerciale, qui serait payante. Mais évidemment, pour nous, c'est aussi un peu un peu dangereux, dans ce sens qu'après, ça permet, disons, ça encourage les développements séparés. Donc, on est plus intéressé au sponsoring ou aux contributions directes plutôt que cette option, mais c'est quelque chose qui reste aussi un peu sur la table. Voilà, c'est un peu ce que j'ai à dire, et puis on pourra peut-être encore en discuter après. Merci.
Merci Laurent. Nous accueillons maintenant David Fiala, qui est maître de conférence au CESR à l'Université de Tours. Il a fait une thèse sur les musiciens dans la cour de Bourgogne à la fin du XVe siècle. Il a été rédacteur en chef de la revue de musicologie dans les années 2000. Il est chargé de mission au ministère de l'ESR jusqu'à l'année dernière, où il a été mêlé à l'élaboration du PIPR-ICAR. Et il est actuellement en délégation CNRS, ce qui lui donne un peu de temps pour le Richard Carr Data Lab, dont il va nous parler aujourd'hui.
La présentation...
C'était du web, c'était quoi?
C'était PDF.
Alors c'est dedans. Vas-y. Okay. Tu ouvres. Elle est là. Tu l'ouvres et ça va marcher direct, normalement. Oui. Non. Okay. Tu peux éventuellement couper ça, on voit mieux. Ouais. Tu peux mettre en contrôle L pour mettre en plein écran.
Merci beaucoup, merci Florence et merci Mathieu pour l'organisation de ces journées et l'invitation. Finalement, je vais présenter en partie une application de ce dont Laurent vient de parler, puisque nous sommes des grands utilisateurs de Verovio depuis longtemps. Et donc je vais parler des corpus musicaux du Richard Carr Data Lab, qui est donc l'équipe de recherche du Centre de la Renaissance à Tours, en essayant un peu de problématiser ça pour expliquer à quoi sert l'encodage musical quand même, parce que ça faut bien que ça serve à quelque chose. Une des questions qui nous intéresse, c'est de résoudre des problèmes complexes qu'on ne peut pas résoudre sans les machines, puisque la musicologie existe depuis un bon bout de temps et a beaucoup fonctionné sans les machines, mais avec les machines on peut faire d'autres choses. Donc ce portail est en ligne, et je vais donc présenter en gros ce qu'il y a dedans. L'équipe Richard-Car du CESR, c'est l'équipe de musicologie du Centre de la Renaissance, qui est un centre interdisciplinaire qui concerne toutes les... Donc évidemment, il y a des historiens de l'art, il y a des spécialistes d'histoire de tous les domaines. Il y a une équipe de musicologie qui a une histoire un peu ancienne maintenant déjà, puisqu'elle remonte à 1992 et il y a plusieurs représentants du CESR ici. Elle a une histoire ancienne, et dès le début de son histoire, cette équipe a fait des projets numériques qui se sont accumulés. Le plus connu, c'est le catalogue de la chanson française du XVIe siècle, qui est un outil qui est utilisé depuis cette époque-là, depuis disons les années 2000, très fréquemment. C'est donc le recensement de toutes les chansons polyphoniques du XVIe siècle. Ça représente 9000 chansons publiées et en circulation. Puis d'autres projets se sont accumulés, je ne vais pas détailler tout ça ici, vous pourrez voir ça. La grande affaire, encore une fois une affaire de Covid, ça a été la réunion de tout ça. C'était quelque chose qu'on avait en ligne de mire depuis évidemment très longtemps, mais tous ces projets disparates, il fallait les réunir, et donc le Covid a été l'occasion de se réunir en visio pour décider qu'on allait faire un modèle de données, qu'on allait mettre tout ça ensemble, pour faire quelque chose de simple et d'accessible, auquel vous pouvez accéder facilement. Les principes généraux, je les énumère très rapidement. On n'a pas vocation à être exhaustif sur la Renaissance, ce serait illusoire, c'est des répertoires importants, même si c'est des répertoires anciens. On s'intéresse aux personnes et aux œuvres. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas spécifiquement aux sources musicales, même si on est des très bons connaisseurs des manuscrits, des imprimés, il n'y a pas de problème, on se débrouille, mais on n'a pas vocation à faire un travail de bibliothécaire. En gros, c'est ça que ça veut dire. Les bibliothécaires font leur travail, les bibliothèques font leur travail. Nous, on l'exploite, on le corrige au besoin, on le complète, on l'alimente. Et donc, nous ne sommes pas une bibliothèque virtuelle, on n'a pas vocation à publier des images de numérisation, des choses comme ça. L'organisation, elle se veut le plus simple possible. C'est, vous allez voir sur la page d'accueil, c'est des personnes, des œuvres et des sources qui sont croisées. Et tout ça fait un modèle de données qui permet de naviguer dans le patrimoine musical de la Renaissance. C'est ça l'idée. Le seul point que je peux peut-être juste souligner, c'est que pour les personnes, on a des identifiants interopérables. Il y en a plein. Mais évidemment, Vaiaf et d'autres, et Wikidata, bien sûr. Pour les sources aussi, on en a, des identifiants interopérables, ça marche. Pour les œuvres, on n'en a pas. Et c'est une des vocations, notamment de notre travail, sans doute, c'est pour les chansons, par exemple, qui est un travail très minutieux à faire, ne serait-ce qu'identifier les 9000 chansons, et bien dire que telle version musicale de Mignonne à l'Ombre la Rose n'est pas la même que la suivante, c'est le travail de musicologue qui se fait régulièrement et qu'on fait au Centre de la Renaissance depuis longtemps. Donc voilà la traduction à l'écran de ce que ça donne. Ça, c'est ce qu'il y a dans le back-office. Vous ne verrez pas ça si vous vous connectez, puisque 2021, c'était le début de la mise en route de la réflexion sur le modèle de données. Et puis, il a fallu mettre ça dans un portail, Django. Et puis, maintenant, il faut alimenter tout ça. Donc en fait, vous verrez, il y a moins de personnes, moins d'œuvres et moins de sources à disposition. Tout ça est en train d'être... d'être nettoyé, les données sont en phase de nettoyage par les contributeurs. Donc il faut réalimenter ce à partir de projets existants, qui pour la plupart sont encore en ligne dans des anciennes interfaces, hein, le catalogue de la chanson française, vous pouvez toujours y accéder, si vous voulez avoir toutes les mises en musique de Mignonne à l'Ébourcy la Rose, vous les trouverez. Mais on va évidemment le remettre dans le Richard-Car Data Lab, et tout ça prend un peu de temps, tout ça prend un peu de... Il faut réaligner les données dans ces différents modèles. Donc voilà quelques exemples. J'ai mis juste deux exemples en gras et en couleur. C'est les deux exemples dont je vais parler un petit peu pour parler un petit peu des outils et du workflow et de l'acquisition de ces données musicales. Évidemment, on travaille beaucoup sur les métadonnées, c'est une partie de notre spécialité, mais ce qu'on veut, c'est constituer des corpus les plus larges possibles pour arriver peut-être un jour à ce qui ressemblera de la big data en notation symbolique. Pour faire tout ce qu'on peut faire avec des grandes données. Donc je vais parler de ces deux projets éditoriaux qu'on a mis en ligne récemment, juste pour expliquer un peu comment on acquiert ces données. Oui, ce que je dois dire juste rapidement, c'est que créer de la partition, on est bien payé pour savoir que c'est très lent, très long, et qu'il faut trouver des solutions. pour en créer beaucoup. Hein. On a eu plusieurs projets, je ne l'ai pas mis là, mais plusieurs projets avec un collègue américain sur des travaux qui concernaient les messes du XVIe siècle. Et on a bien vu que produire de rien des partitions, bah, même pour de la musique, pas extrait, c'est pas du Wagner, hein, les musiques qu'on encode, mais malgré tout, c'est extrêmement lent. Donc on cherche à accélérer le processus, en gros. Alors, le premier projet, c'est Chansonnier du Val-de-Loire. C'est un exemple qui est donc public maintenant. Évidemment, on s'y est intéressé parce qu'ils sont du Val-de-Loire, parce qu'ils sont très prestigieux, très connus. C'est des chansonniers du règne de Louis XI, donc de la fin du XVe siècle. Hein. Et ces six chansonniers sont reliés. Il y avait une actualité. Un nouveau chansonnier est passé en vente il y a 10 ans. Ça a fait toute une affaire chez les musicologues. Et donc, il y avait matière à publier tout ça. Et donc, voilà, on a publié. Alors, on a 289 chansons qui sont en fait... copié dans plus de ça, environ 500 témoins, c'est-à-dire 500 copies différentes de ces différentes œuvres, de ces 300 œuvres. Et tout ça a été motivé par la participation à une infrastructure. Je vais juste mentionner quand même l'importance des infrastructures pour tout ce qu'on dit. Parce que si on veut partager, il faut partager ça sur des outils pérennes. L'infrastructure Biblissima a été une motivation importante pour la mise en œuvre et pour la publication de ce corpus, avec l'idée, alors juste un mot sur Biblissima, c'est l'infrastructure d'histoire du livre, en gros. Hein. C'est les historiens du livre, c'est un équipex qui existe depuis 2011 et qui a été prolongé, qui va devenir une vraie infrastructure de recherche nationale en France sur le patrimoine écrit, en fait, le patrimoine du livre. Et puis on leur a dit, mais il faut mettre de la musique là-dedans, parce que des livres de musique, il y en a beaucoup, et ce sont des livres. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et l'idée, c'était donc de proposer, de faire entrer la musique dans Biblissima, notamment avec l'espoir que l'interdisciplinarité et l'étude interdisciplinaire des livres apportent des connaissances supplémentaires sur la musique et aussi, évidemment, sur les livres. Alors, en deux mots, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Philippe Vendrix a un bon ami qui s'appelle Clemens Goldberg, qui est un homme enthousiaste. Il aurait pu être CDPLien, il aurait pu publier tout ça librement. Il encode de la musique du XVe siècle par passion depuis des décennies. Il l'encode très bien, c'est un musicologue spécialiste. Et il mettait tout ça à disposition sur son site, la Goldberg Stiftung, la fondation Goldberg, en offrant simplement les PDF de ses éditions. Alors les PDF, ben on a bien compris que les PDF, c'est bien, mais c'est quand même pas grand-chose avec ce qu'on peut faire aujourd'hui. On s'est demandé pourquoi c'était des PDF. Une des raisons pour lesquelles c'était des PDF, c'est que ça reposait, c'est qu'ils étaient encodés dans cet ancien format, cet ancien logiciel, qui était un logiciel, alors c'est un logiciel absolument remarquable, qui a été en partie développé d'ailleurs au CESR par un musicologue et un informaticien, spécifiquement pour la notation de la fin du Moyen-Âge, enfin la notation du Moyen-Âge, ce qu'on appelle la notation mensuraliste, qui a des particularités qui la distinguent de la notation commune à partir, disons, du XVIIe siècle. L'invention de l'opéra, Monteverdi, tout ça, ça part ailleurs. Il y a des barres de mesure, tout d'un coup, qui n'existaient pas avant. Je simplifie grossièrement, mais c'est ça l'idée. Et donc, c'était un format d'encodage qu'il fallait récupérer avant d'espérer pouvoir mettre à disposition librement les données de Clemens Goldberg. C'est quelque chose qu'on a fait donc avec Laurent, qu'on a présenté l'an dernier à Londres dans la conférence MEI. C'était l'outil de conversion qui permettait de passer à CMMI, qui était déjà un format XML, hein, et le rapatrier dans la MEI avec une particularité, c'est que le défi, c'était de faire de la notation mensuraliste, justement. Hein, et donc de garder la sémantique intéressante, Laurent parlait de sémantique, les caractères importants de la notation mensuraliste telle qu'elle était encodée par le logiciel spécialisé CMMI, et de le faire entrer dans de la notation commune possiblement, et sinon de garder aussi une forme mensuraliste de cette notation. Voilà, c'est un convertisseur. Donc, d'un côté, vous avez une structure, vous en avez une autre. Ça a été un travail donc, qui a été financé par Biblissima, qui nous a permis de faire ce travail avec des informaticiens de la communauté MEI, et d'aboutir donc à un corpus qui va être important, puisqu'on a un corpus de 4000 œuvres du XVe siècle. On peut dire qu'on va avoir la musique du XVe siècle en grande partie, allez, il en restera pas mal, mais ça fait, disons en tout cas, la musique française du 15e siècle a été en partie encodée, c'est par Clemens Goldberg, et on va donner ça, on va mettre ça en accès libre progressivement sur le Richard Card Data Lab. CMMI, c'était aussi le format dans lequel on avait encodé tous les incipits des chansons françaises du catalogue dont j'ai parlé précédemment, qui vont être aussi mises à disposition. Et les incipits, c'est donc les toutes premières notes d'une chanson qui permettent de l'identifier et de la différencier d'une autre chanson, hein, sur un même texte éventuellement. Et puis, il y a évidemment pas mal d'autres corpus qui suivent. Voilà comment ça se présente. Et donc, vous avez, je passe ces pages, vous pourrez regarder en ligne. Et ici, vous avez donc un exemple de la souplesse de Verrovio, dont parlait Laurent, puisqu'on a ici une notation mensuraliste, sans barre de mesure, mais malgré tout en alignant les voix séparées. Enfin, voilà, bref, je ne rentre pas dans les détails de la difficulté qu'il y a à représenter tout ça, mais on peut dire que c'est le mode de représentation le plus approprié pour la musique de cette époque. Voilà à quoi ça ressemble. Et mon deuxième exemple sur lequel je vais être extrêmement rapide, c'est on vient de mettre en ligne la musique hier matin. Donc vous pouvez aller voir. C'est un compositeur important de la fin du XVIe siècle, 100 ans après. On n'a plus besoin de notation mensuraliste, là c'est presque de la notation moderne, c'est presque de la notation commune. Et l'histoire qu'on peut juste raconter très rapidement, c'est que là encore, c'est de la réutilisation, c'est de la récupération de données, c'est du sauvetage de données. Alors là, le sauvetage, c'était suite à un naufrage, évidemment. Le naufrage, c'était un logiciel de gravure qui était le fin du fin dans les années 2000, jusqu'à ce que ça s'arrête. Mais le site est toujours en ligne, hein, je vois qu'il existe toujours, j'ai réussi à faire la capture d'écran hier, avec un historique, vous voyez, qui remonte loin, hein, ces histoires de gravure, Laurent disait que ça remontait loin, ça remonte aux années 1970. Ce logiciel donc est tombé en déshérence, il avait un certain nombre de handicaps. Son principal avantage, c'est qu'il produisait des magnifiques partitions. Et quand on a des magnifiques partitions, ce qu'on peut faire fonctionner, c'est de l'OMR. Là, ça ne pose pas de problème. Et donc, pour Cotelet, et comme ça va être le cas pour pas mal de productions qui ont été produites dans le logiciel Berlioz, qui a un avantage principal, c'est la qualité de sa gravure, donc la qualité de la définition des images musicales, et ben, en laissant passer dans la reconnaissance optique, on a des très bons résultats qui permettent de récupérer à la fois le texte et à la fois la notation, et donc de récupérer ça sous forme de prestation. Et voilà, vous avez ici le résultat qui apparaît sur le Richard Card Data Lab. Voilà, conclusion, les perspectives pour toutes ces données. Pour Custody Online, c'est sans doute, par exemple, de servir de corpus d'entraînement pour des imprimés, pour des reconnaissances optiques d'imprimés, des choses comme ça. Évidemment, ça peut être implémenté dans tous les portails de partenaires qui sont intéressés à ces répertoires. Ça peut servir évidemment aux artistes interprètes, aux musiciens qui veulent chanter cette musique, et à toutes les chorales. On a parlé de chorales, évidemment, Guillaume Cotelet est une des stars des chorales françaises. Et puis pour les chansonniers, là l'enjeu pour nous c'était vraiment l'interopérabilité. À travers l'étude, notamment par la vision par ordinateur, combinée à la fois de la notation musicale mais de la décoration des manuscrits, donc de l'histoire de l'art, évidemment de l'analyse textuelle, les poèmes et donc de tout ce qui se fait en analyse de texte. Les mains des copistes et toute la circulation et toute l'identification de ce corpus de chansonniers qui est historiquement vraiment central et qui fait encore beaucoup débat. D'où viennent-ils exactement? Comment sont-ils reliés? Et voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup David. Nous accueillons maintenant Mathieu Giraud, qui est donc directeur de recherche au Cristal à Lille et qui est responsable de l'équipe Algomus, donc qui s'intéresse à l'analyse, à la modélisation, à la visualisation, à la génération de musique et qui coordonne les travaux autour de l'interface web d'Ezran qui permet l'analyse collaborative de pièces musicales.
Merci Florence. Donc rebonjour à toutes et à tous. Peut-être commençons-nous par écouter un petit peu de musique. Fantaisie pour flûte de Téléman. Et en fait, c'est une fugue. C'est une fugue, on va avoir un seul instrument avec le sujet, le contre-sujet. Et là, on a par exemple un épisode qu'on a entendu, désolé d'avoir arrêté. Donc, c'est le travail de thèse de Patrice Thibault, qui en fait, derrière, fait de l'analyse de performance. Il a les positions, on va dire, dans le flux audio de chacune des notes. Et puis, il corrèle ça, par exemple, aux voix implicites. Et voilà. Donc DeathRun, c'est une plateforme pour voir des partitions, des annotations, des vidéos. Aujourd'hui, je vais surtout souligner ce en quoi ça peut être utile pour ouvrir des corpus et en quoi on a été amené, on travaille avec d'autres personnes là-dessus. Je vais commencer aussi par quelqu'un qui est dans la salle, Louis Couturier, qui est là, voilà, qui a soutenu sa thèse en 2024. Sur la texture musicale, c'est ce qui était concadré par Florence et par Louis Bigot. Les premières sonates pour piano de Mozart. Donc ce que Louis a développé, il vous le dira mieux que moi, mais c'est en fait toute une ontologie pour décrire la texture musicale, pour dire là il y a des accords qui sont plaqués, ensuite on va avoir une mélodie, on va avoir un support rythmique, voilà. Donc derrière, on va dire, c'est du travail d'analyse musicale, d'informatique musicale, mais il y a toute cette question de d'où viennent ces sources, et donc ces sources-là, c'est de la réutilisation, des fichiers qui viennent en particulier de l'EPFL à Lausanne pour les partitions, mais aussi des données d'analyse de l'EPFL. Donc là, on est déjà dans un corpus où en fait, on va combiner des choses qui viennent de plusieurs personnes, et tout ça évidemment grâce aux licences libres, mais aussi grâce, on va dire, aux collaborations individuelles. Louis a par exemple passé un mois à l'EPFL, au moins un mois à Lausanne. Et derrière, donc, Louis a fait une analyse des propositions sur la texture, mais voilà, le sujet n'est pas là aujourd'hui. En revenant, le point un peu central, c'est comment on peut faire revivre des corpus déjà publiés ou parfois incomplètement publiés. Je pense que David a pas mal déjà donné ça à ton exposé, c'était assez intéressant, tu nous montrais des corpus qui étaient un peu en danger, ou des corpus qui ont été publiés mais par d'autres manières. Là, c'est la thèse de Vanessa Nina-Borsan qui a été soutenue en 2024. Et nous sommes en Slovénie, et nous écoutons des chants folkloriques slovènes. Donc le travail de collecte de ces chants, en fait, il a commencé au 19e, on va dire, avec la naissance de l'ethnomusicologie, au début sans vraiment avoir connaissance des biais de l'ethnomusicologue, et puis après à la fin 19e, début 20e, avec des méthodes beaucoup plus rigoureuses, mais on était aussi un petit peu plus tard. Là on est plus tard, on est avec un équipement d'enregistrement. Les transcriptions qui ont été faites à l'époque, avant que ça soit sur des matériels d'enregistrement, c'est des transcriptions, on va dire, un petit peu à la main, donc ça reste des transcriptions avec leur interprétation. Tout ce travail, on va dire, qui a duré un siècle et demi à peu près, il avait déjà été publié entre les années 1970 et les derniers, je pense que c'est au tout début des années 2000, 5 livres qui étaient édités en Slovène et où les partitions étaient imprimées, voilà. Après, c'est déjà un travail de musicologie conséquent, parce que c'est pas juste faire la transcription, évidemment, c'est faire de la classification, problématiser un petit peu ces choses-là. Mais ces fichiers n'étaient pas... En tout cas, on n'avait pas les fichiers, ils n'étaient pas disponibles. Donc, dans le cadre de la thèse de Vanessa Nina-Borsan, on a travaillé avec le GRC Zazul, l'Institut d'ethnomusicologie de Ljubljana, pour arriver à... son travail de thèse, et où on a 400 chansons folkloriques qui sont proposées avec un corpus en licence libre Creative Commons, et là il y a une erreur là sur le slide, c'est BY-SA NC, donc une licence qui n'est pas complètement libre, Mais c'était toute une discussion qui était en fait avec l'Institut d'ethnomusicologie, savoir à quoi ils étaient prêts, elles étaient prêtes, pour ne pas... Ils étaient très sensibles en fait à la question de ne pas trahir par la licence à la fois le travail des personnes qui ont fait la transcription, mais aussi tout simplement on pourrait dire la caminos des chansons folkloriques, c'est disons le peuple et les personnes qui se transmettaient ce patrimoine oral, et de dire attention que est-ce que leur connaissance peut être utilisée, donc ils ne voulaient pas que ça soit utilisé de manière commerciale. Voilà. Donc c'est une discussion qu'on a eue, mais on a ce dataset qui est publié et qui maintenant peut être réutilisé et remodifié par d'autres personnes. Derrière, Vanessa fait aussi un travail d'analyse de motifs là, mais voilà, c'est pas le point, l'exploiter pour ces questions de recherche, ce corpus. Je vais demander maintenant des exemples qui sont un peu de corpus plus externes à notre équipe. Le premier est à moitié, puisque c'est du travail qui vient de Marc Gautam, qu'on a eu ce matin. Donc c'est un des corpus, une des partitions d'OpenScore. Et donc on est sur un lead ici, je pense qu'on est encore de Fanny Mendelssohn, avec des analyses harmoniques. Donc là, c'est dû un travail à la fois de partition qui avait été fait dans OpenScore et d'analyse harmonique When in Rome, un autre corpus, et que nous affichons, que nous réintégrons sur DESRAM. Non, on n'aura pas la Weimar Jazz Database, c'est pas grave. Ça, c'est un autre travail qui a été publié par Stanford Supra. 2019, donc des rouleaux de piano mécaniques qui ont été digitalisés, un très très beau papier qui en fait gère même l'épaisseur du papier musique pour dire que la vitesse de rotation de constante, on n'a plus la même vitesse linéaire pour avoir des bonnes transcriptions. Voilà, donc là c'est des données, on va dire images, mais qui sont aussi affichées et que nous avons repris et republiées, ce qui était possible parce que les licences étaient libres. Alors c'est un petit peu le corpus Erkovashvili, donc c'est de la musique sacrée géorgienne, et c'est en fait des enregistrements historiques qui ont été faits en 1962 d'un des derniers chantres géorgiens qui connaissait cette musique avec vraiment des harmonies très très particulières, et c'est de l'overdubbing, il s'est enregistré, il s'est réenregistré en faisant les trois voix. Donc tout un corpus qui a été publié alors par des gens qui n'ont pas de lien direct avec nous, mais qu'on a pu refaire vivre et qu'on a pu rafficher. Alors derrière tout cela, l'idée, c'est que si je prends par exemple comme exemple là, ce projet-là, dans leur publication, pourtant ce projet n'est pas si ancien que ça, il n'a que 5-6 ans, au moment de leur publication, ces personnes avaient fait une petite appli JavaScript pour voir des choses qui étaient assez intéressantes. Mais bon, 5 ans, 6 ans après, est-ce que l'appli fonctionne encore ? Parfois, voilà. Maintenant, par contre, quand on prend des projets d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, là, je ne l'ai pas mis là ici, mais on a par exemple travaillé avec les personnes qui font du luth sur le projet Ecolm, avec des très très beaux projets de 15-20 ans, les applications, parfois, sont difficiles à lancer. Et donc rien que de prendre des corpus qui ont été publiés il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois plus, et de les refaire, de remettre, voir si on peut rafraîchir les formats de ça, c'est déjà du travail et c'est intéressant, surtout quand on a ici une application qui est un peu plus générique et qui va nous permettre d'afficher un ensemble de choses. Je passerai sur les détails techniques, mais en gros, de DESRAN, c'est surtout une interface, on va dire, de synchronisation avec au centre le temps musical, ce qui permet de synchroniser, y compris plusieurs sources audio. Par exemple, là, ici, sur le clavier bien tempéré, une vidéo des Erlang Bach Society. Et ensuite, Kimiko Ishizaka, j'ai peur de me tromper sur son nom, Donc le Open Well Tempered Clavier Project. Et donc là, en fait, c'est deux projets qui n'ont rien à voir. Les vidéos sont sur... Alors là, c'est des vidéos pour Kimco, c'est des vidéos qui sont vraiment libres. Les premières, c'est des vidéos qui sont sur YouTube. La licence n'est pas claire, mais on peut se lier par le player YouTube. Et on peut en fait nous changer, même si les interprétations ne sont pas au même tempo, on peut en plein milieu changer d'interprétation parce que tout est lié au temps musical. Voilà. Et un exemple aussi de choses, donc ça, on va dire, reprendre des données faites ailleurs. Oups. Qui a été fait avec l'accord des artistes en libre et dont les fichiers maintenant sont disponibles en licence Creative Commons. Donc quelques points pour finir, là je suis bientôt à la fin. Nous avons des métadonnées. Des métadonnées, c'est des descriptions. C'est aussi des questions de qualité. C'est des questions de qualité pour plusieurs choses, que ce soit pour les partitions, pour l'audio, des indices, on va dire de 0 à 5. Alors on ne dit pas que tout ce qu'on a est parfait. Parfois les sources sont très disparates, mais rien que le fait de noter la qualité, c'est déjà intéressant. Et aussi les licences. Donc suivre les licences. Donc là par exemple, là, sur le corpus Winterreise de Schubert, on voit des licences qui sont très différentes entre les licences des partitions, les licences de l'audio. Et pour chaque source, on essaye de tracer sa licence. On ne dit pas qu'on y arrive tout le temps, parce que parfois c'est complexe, mais on essaye de le faire, et c'est ce qu'il faut en fait pour retracer les choses. On essaye même, et là c'est assez récent qu'on fait ça, d'avoir en gros des screenshots, des preuves des licences. Alors ça peut être juste le guide qu'on prend, mais si dans un article sur un papier dit « nous mettons cela en CC-là », se dire que comme ça, même si le guide disparaît, on a quand même cette preuve de la licence. Et la dernière chose, c'est l'internalisation. Donc là, par exemple, descriptif en chinois ou le descriptif du corpus des fugues en slovène, qui permet aussi de donner un meilleur accès. Pour mes conclusions, en fait, je vais avoir juste trois points. Bon, le premier, c'est de la documentation. De la documentation, évidemment, technique pour ajouter les choses. Je vais peut-être plutôt passer à cela, qui est un petit peu plus intéressant. C'est la question, en fait, d'éthique dans nos choix de corpus. Et nous toutes et tous qui sommes là et qui travaillons sur des corpus, qui parfois resteront des corpus qui sont peu connus, je pense que c'est important de savoir que nos choix ne sont pas neutres. Et en particulier, nous, dans l'équipe Algomus, il y a 15 ans, on faisait que, les musiques classiques et baroques. On était assez restreints, à la fois géographiquement et stylistiquement. Et on essaye maintenant en fait d'étendre vers d'autres corpus et aussi évidemment de reconnaître les biais, en particulier les biais sexistes, ce qu'il y a en musicologie comme partout ailleurs, et d'avoir une défense particulière des corpus de compositrices, d'interprètes féminines. Et tout à l'heure, Philippe a présenté Marceline Desportes-Valmore, donc voilà, on a aussi un projet qui est en cours avec Philippe pour essayer de faire vivre un petit peu ces corpus. Et mon tout dernier transparent, ces corpus sont en partie, pareil c'est en cours, on essaie de les mettre quand ils sont finalisés, ils sont sur des guides, mais de les mettre aussi à long terme sur Recherche Datagouv. Et j'aimerais vous proposer aussi ce concept, en fait, ce qu'on appelle nous la pérennité humble, c'est-à-dire, oui, on parle d'archivage à long terme, on parle d'interopérabilité, mais les interfaces que l'on développe, alors on espère que Desran, comme d'autres interfaces, vont servir, mais qu'est-ce que cela va devenir dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans? Peut-être que techniquement, il y aura des choses, ou même très probable, qui auront évolué, et qu'en tout cas, ce ne sera pas nos bases de code actuellement qui tourneront. Et certains des logiciels, certains des plateformes que nous présentons en ce moment aujourd'hui, que ce soit dans mon labo ou dans d'autres, seront dépassés, il y en aura d'autres. Et en fait, c'est pas grave, c'est la vie de faire ça. On sait que le travail académique, le travail intellectuel en général, doit toujours se renouveler. Et quelque part, le fait de publier les données brutes, ce à quoi beaucoup d'entre nous sommes attachés ici, ça permet de se dire que même quand nos projets, même les projets auxquels on tient, qu'on développe, ne seront plus là, on pourra toujours continuer à faire des choses. Donc On continue à espérer que les logiciels font, et on travaille beaucoup pour nous pour développer des SRAN, mais cette pérennité d'avoir les données, on va dire, les plus brutes possibles. Voilà, je voulais remercier tous les collaboratrices et collaborateurs qui travaillent sur DASRAN, en particulier Emmanuel Le Guy qui est ici et qui est le développeur principal sur DASRAN. Merci.
Merci à tous, je vais merci d'avoir respecté le temps, comme ça nous reste un peu de temps de discussion, donc si vous voulez rejoindre la table, ça nous permettra d'échanger. Peut-être je vais commencer par une première question, puis je pense qu'il y aura de nombreuses questions dans la salle. Plusieurs d'entre vous venez d'évoquer les problématiques de pérennité, donc c'est une session sur les plateformes. Donc effectivement, on a évoqué tout à l'heure la problématique des financements. On trouve souvent des financements pour démarrer les plateformes, mais pas pour les maintenir. C'est très difficile de trouver des financements qui acceptent de financer des ingénieurs juste pour maintenir quelque chose d'existant. Et on a parlé beaucoup d'interopérabilité. Donc je voudrais un peu votre sentiment à tous sur quelqu'un aujourd'hui veut mettre en ligne ou peut-il utiliser une plateforme existante. J'imagine que s'il y a des nouveaux développements, c'est parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas couverts par les plateformes existantes. Quels seraient vos conseils pour essayer de faire que dans 10, 15, 20 ans, c'est très ambitieux, le travail réalisé soit encore effectif, pérenne et utilisable?
C'est ouvert, salut mes
yeux. Moi, ma réponse, je l'ai donnée un peu dans la conférence, c'est qu'il faut croire dans les infrastructures de l'État. Allez, et il y en a, enfin Humanum et Publicima sont là pour ça, ils ont des financements pérennes, ils ont des financements qui sont inscrits dans les lois de finances, on a un budget qui va peut-être être voté, mais de toute façon, indépendamment du vote du budget, Humanum a son budget, hein, donc ces infrastructures-là, on peut espérer qu'elles tiennent, donc... C'est une première réponse. Après, ça répond sans doute pas au code, mais en tout cas, pour les données, il y a quand même des outils pour préserver les données.
Merci.
Alors, ma position sera un petit peu légèrement différente, puisque je vois celle de la position des communs numériques. Je ne vous cache pas qu'on est particulièrement inquiet dans le mouvement Wikimedia des différents événements qu'on a aux États-Unis où en 24 heures, il y a des milliers et des milliers et des milliers de photos qui ont été supprimées, qui étaient sur les serveurs de l'État des États-Unis. Il y a une opération qui a été incroyable, faite par des bénévoles, de sauvegarder à partir d'Internet Archive, à partir des caches de ces photos, et que vous pouvez trouver maintenant qu'à un seul endroit dans le monde, c'est sur Commons. Donc là-dessus, moi, je dirais que... faut pas hésiter à être militant dans le sens des licences Creative Commons, notamment qui sont compatibles avec le mouvement Wikimedia. Quand j'étais Wikimedia en résidence, c'était un vrai problème pour moi d'avoir des personnes qui disaient « Oui, mais on a très peur de ce que peuvent faire les personnes qui pourraient lui faire un titre commercial. » J'entends tout à fait cette inquiétude. Dans la pratique, en fait, c'est plutôt limitant. Il y a pas mal de personnes qui voient ça et qui disent « Oui, mais est-ce que c'est commercial ce que je fais ou pas ?» et du coup, qui n'utilisent pas ces données. J'entends le fait qu'il y ait des inquiétudes, mais sachez que c'est souvent en fait des préjugés et qu'il vaut mieux publier dans une licence qui est plus ouverte, une licence, qui permet une réutilisation commerciale, parce que ça permet nous de pouvoir les archiver, ça leur permet de donner une plus grande visibilité en termes de découvrabilité des contenus. Le mouvement Wikimedia, je ne pense pas qu'il est le meilleur au monde, hein, mais le plus grand, la plus grande œuvre de coopération internationale sur la connaissance. Donc n'ayez pas peur en fait, d'offrir ce contenu-là à la communauté, elle en fait des merveilles.
Alors, moi, je rejoins aussi David, évidemment, sur les infrastructures. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qu'on ne peut pas faire de recherche en sciences humaines ou en orientation digitale sans avoir des infrastructures solides. Pour soutenir cette recherche, ça veut dire des infrastructures qui maintiennent des données, qui maintiennent des formats. On a vu ça aussi avec la MEI. C'est des choix stratégiques qui sont importants pour que les données restent. Et comme Marc Cotin l'a dit ce matin, pour moi, c'est extrêmement important de bien penser en termes de données en premier même si ma présentation était plus sur un outil qui doit aussi lui être ouvert, mais ce qui doit rester et ce qui va rester, c'est en premier les données. Après, sur la question des API et des données, ce qu'on a essayé de faire pour le RISM, c'est vraiment de se concentrer sur les URI, donc les identifiants des ressources, que ce soit les sources, que ce soit les personnes. Et ces URI doivent être vraiment indépendantes des structures logicielles derrière pour que ça puisse changer si ça doit. Hein, ça doit toujours être indépendant des outils pour les données, pour les URI qui sont publiées. Et puis après, évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une coupure, d'un changement. Mais c'est le mieux qu'on puisse faire pour que les choses soient le plus pérennes possible. Mais sans jamais, évidemment, complètement pérennes.
Mon côté, alors, côté plateforme, oui, prenez les plateformes qui vous semblent pertinentes, mais je rejoindrai complètement Delphine, contribuez au commun. Donc après, il y a plein de manières de le faire, je veux dire, vous pouvez déposer sur Zenodo, sur Recherche Atagouf, sur Common, sur plein de droits, vous pouvez dupliquer les données, c'est bien que les données soient dupliquées, c'est ce qui aussi nous protège. Et quelque part, le fait aussi de retravailler sur des corpus existants, de faire quelque chose d'autre, ben, ça permet une duplication, ça permet un enrichissement. Et cette pérennité humble dont je parlais, en fait, pour moi, l'humilité, c'est aussi de se dire d'autres personnes vont faire mieux que ce que je fais, moi, dans mon labo avec mes outils, et c'est très bien. Voilà.
J'en profite pour rebondir là-dessus, sur la question de la pérennité. On est en France particulièrement vulnérable aux cyberattaques. Pour ma part, moi qui suis assez proche du muséum où j'ai bossé, ils ont eu une très grosse cyberattaque. Et encore actuellement, il y a des données qui ne sont pas disponibles. Donc bah, le fait qu'elles soient sur Commons, bah, ça a permis quand même à certaines données de pouvoir continuer à être utilisées pour la recherche.
Merci. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions dans la salle.
National, c'est important de penser que vos enregistrements ont des formats qui ne seront peut-être plus visibles dans 10 ou 20 ans. Et là, un contrat avec le CINES vous permet de garantir un suivi de l'évolution des formats pour une vraie pérennité, enfin, en tout cas, une durabilité sur plusieurs décennies.
Oui, je pense qu'on peut juste répondre à ça, c'est que pour le CINES, aller directement taper à la porte du CINES, c'est. Voilà. Donc Humanum, voilà, ça passe par Humanum. Donc en fait, ce relais-là est indispensable. Voilà.
Merci à tous les quatre. Juste un petit mot qui n'est pas tant une question, pour dire que je souscris complètement à ce qu'a dit Mathieu pour la question de la pérennité humble. Et on voit justement souvent que le manque d'humilité, la volonté de marquer les choses de manière individuelle peut souvent poser un petit problème. Donc bon, alors je vais pas faire les je vais dire Cardatella parce que je bosse avec David, mais je pense que ce qui est surtout intéressant, c'est aussi de questionner quand même les données qu'on a et réfléchir à voir si elles gardent leur aspect qualitatif au fur et à mesure du temps et ne pas hésiter à les réinvestir. Et aussi accepter qu'à un moment, si on ne peut plus les réinvestir, on pourra laisser justement à d'autres qui pourront les reprendre, les réutiliser. Et je pense que c'est à ça que c'est la science ouverte aussi, justement, d'être dans une approche complètement, j'irais pas dire jusqu'à se désintéresser, mais quand même qu'on sait qu'à un moment, on va pouvoir porter un projet jusqu'à un certain point et qu'ensuite, il y aura d'autres personnes qui feront.
Bah, je peux faire juste un tout petit commentaire là-dessus, c'est que les chansons des chansonniers, là, les textes sont très compliqués à éditer, les textes, là je parle des textes littéraires, des poèmes, et on ne le fera pas. Mais il y a le FNS qui vient de financer un programme à Lausanne pour l'édition de ces textes, précisément. Donc nous, les chansons, on va les donner. et ils font l'édition des textes, et ce sera très bien, et il y aura deux sauvegardes, et tout va bien. C'est effectivement la mise en œuvre de ce genre de préconisation.
Moi, est-ce qu'il serait possible d'inclure un peu plus les utilisateurs, musiciens, bibliothécaires dans le circuit pour qu'on puisse faire un retour d'expérience sur le terrain?
Alors, puisqu'on est en plein dedans, j'en profite. En ce moment, il y a l'opération Un bibliothécaire et une référence sur Wikipédia, qui est spécialement pour les personnes qui sont des spécialistes de l'information comme vous. Et donc, on vous invite à venir corriger les éléments qui sont notés sur Wikipédia comme manquant de source. Donc, il ne faut pas hésiter à rejoindre le mouvement, c'est vraiment un événement international, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Et je pense que ça parle d'autres.
Je pense que c'est.
Bibliothèque,
un des problèmes, c'est que, en tout cas, je parle pour le RIS, qui est un projet important en termes de métadonnées. C'est un projet qui est vraiment né des bibliothécaires et des musicologues, et avec beaucoup, beaucoup de discussions, une collaboration incroyable, un travail communautaire incroyable. Mais c'est vrai qu'on sent que dès le départ, les musiciens n'ont pas été assez intégrés, parce que voilà, c'est l'histoire du projet. Et on est maintenant dans des. On a plusieurs projets en préparation, on essaye d'améliorer nos outils pour les musiciens. Mais c'est un travail fondamental qui nécessite pas mal de révisions sur les données, parce que de nouveau le catalogage il a été fait par les bibliothécaires pour les musicologues ou les deux, mais pas forcément par les musiciens. Et si on parle de problèmes très concrets pour rechercher, par exemple, pour un ensemble très bien défini, les musiciens c'est ce qu'ils veulent en milieu, pour rechercher pour une formation, une contrebasse et je ne sais pas quoi. Et ça, c'est pas des données qu'on a forcément extrêmement bien structurées. On s'est concentré sur d'autres détails. La mesure de la source, la taille de la source, ça n'intéresse pas le musicien, mais c'est des choses qui ont été inventoriées très systématiquement dans les bases de données. Et là, effectivement, il faut qu'il y ait plus de collaboration. Mais c'est des gros travaux au niveau des données. Peut-être que des outils comme l'IA permettront d'accélérer ça.
Une plateforme,
je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire en reliant typiquement ce que fait le Richard Kerr avec Prism, relié aussi potentiellement avec ce qui a été présenté ce matin par Marc, de faire le lien. Et ça, c'est possible grâce aux URI, grâce à ces identifiants, et c'est possible grâce à des collaborations. Mais faire une plateforme en plus, je ne sais pas si c'est
Il y a un projet, il y a un projet dans l'équipe de Fujinaga au Canada actuel sur l'agrégation de différentes plateformes, je ne sais plus quel est le nom de leur projet.
Delta.
Link Music.
Voilà, Link Music. Et en fait, quelque part, je pense que nos différentes plateformes là, peuvent aussi être fournisseurs de données. Et donc là, ça pourrait être une manière, mais après, tu es arrivé sur différentes plateformes qui ont différentes fonctionnalités, ce qui est complètement normal. Mais tu peux, dans ce projet-là, dire « je cherche un lead de telle personne » et puis il va te pointer vers les différentes plateformes.
Alors, je vais juste remettre une couche de Humanum. Dans Humanum, il y a un consortium Musica 2 sur la musique, qui est a priori plutôt académique. Humanum, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. Mais un des projets qu'ils ont, que vous pouvez tester, ça s'appelle Musica Search, et essaye précisément d'agréger ces ressources-là. Alors, je ne dis pas que c'est facile à utiliser pour les interprètes, je ne sais pas, mais justement, n'hésitez pas, il faut des retours. Et alors, pour le coup, puisqu'il est encore question d'infrastructure, ICAR, à sa manière, le PEPR dans lequel on est une forme d'embryon d'infrastructure, doit servir à ça, précisément, d'abord à des rencontres physiques comme ce qu'on est en train de faire, et éventuellement plus loin, mais on verra.
Je vais revenir sur les questions d'entrepôt de données généralistes ou spécialisées, parce que pour moi, l'intérêt, c'est quand même assez généraliste.
Bah oui, c'est hyper généraliste.
On a quand même des grosses différences entre jeux de données en en musicologie ou en histoire, et ce que met en avant éventuellement Dakala pour s'adapter à certaines particularités, ça peut être des visionneurs de certains formats, mais on n'y trouve pas de visionneurs de fichiers musique XML, on n'y trouve pas de visionneurs de façon utile de fichiers XML TUI pour tout ce qui est texte, et donc ma remarque s'adresse peut-être plutôt à Mathieu qui nous a montré une copie d'écran de recherche de DataGouv, où j'ai l'impression que certes on est un peu plus généraliste que dans Dakala, mais je vois un avantage en contrepartie, c'est qu'on peut avoir une visibilité de notre établissement, si notre établissement a sa collection dans recherche de DataGouv, ce que je ne sais pas faire dans Dakala. On va retrouver tous les jeux de données de l'université Gustave Eiffel. Et donc je vois là deux logiques qui s'opposent peut-être, une logique de discipline, où quand, en effet, pour des jeux de données textuels, je vais aller plutôt sur Ortholangue, qui est là vraiment spécialisé sur des jeux textuels. Est-ce que pour la musique, les données musicales, que ce soit des fichiers audio ou des fichiers de partition, vous avez identifié de vrais, enfin ce que j'appellerais de vrais entrepôts de données spécialisés?
Oui. Ajouter un élément à cela. Je crois que la perspective est européenne pour l'instant, c'est le Cloud for Heritage. Le Cloud for Heritage, l'objectif, c'est d'offrir une single API pour tous les objets du patrimoine. Je mélange les langues, hein, parce que c'est le terme des informaticiens. Une entrée singulière pour un objet qui permettra donc de le voir sous différents aspects. Et ça, c'est effectivement ce qui pourrait mettre en valeur la diversité de tout ce que nous avons expérimenté hein, depuis ce matin, hein, passer de l'orgue à une source, une analyse, etc. Et ensuite, une fois qu'on a cette conception de l'entrée singulière, que l'on peut adapter un peu les trouvailles et les organisations des uns des autres, on y parvient. Et ça répond aussi à un autre enjeu qui est celui de la souveraineté européenne. Hein. C'est bien beau d'aller travailler avec Nietzsche. Hein, Laurent a souvent travaillé avec lui, mais c'est le Canada. Enfin, or, on a quand même pour l'instant des directives assez strictes en termes de respect de la souveraineté européenne et de la protection de nos patrimoines. Il faut jouer dessus. Hein. Tant qu'ils font attention au patrimoine, il faut essayer d'en profiter hein, et aller soutirer des moyens d'Europe. Donc, moi, je serais plutôt dans une pensée de comment peut-on imaginer cette entrée unique plutôt que ce que j'avais auparavant pensé, qui était de l'ordre de la plateforme. Comment avoir une plateforme où on pourrait retrouver l'enregistrement, l'analyse, la source, le MEI, tous les codrismes, toute l'histoire de l'œuvre à travers ces reproductions. Ça, je pense que c'est un peu utopique. Ça pourrait répondre à une intention industrielle, mais c'est un petit peu utopique, parce que Spotify, parce que iTunes, parce que Spotify pour rester en Europe, n'ont rien à faire de nos préoccupations.
J'ai envie de vous répondre au projet Wikimedia, mais je crois sur ma paroisse.
Pardon.
J'ai envie de vous répondre au projet Wikimedia, mais je crois sur ma paroisse, puisque tout ce que vous exprimez là, je pense qu'il y en a beaucoup en fait qui sont pris par les différents projets, chacun dans leur spécialité. Puisque j'ai parlé de Commons, il y a Wikidata qui a été abordé, il y a Wikipédia. Ce midi, on a parlé du Wiktionnaire pour la définition des différents termes. Il y a également la Wiki-Université pour les cours. Je pense qu'il y a des possibilités. Je sais bien que c'est... voilà. Et puis que ce que vous parlez de patrimoine, j'en profite pour rebondir en disant qu'il y a chaque année un appel à com pour les collections. Et il ne faut pas hésiter à candidater avec un volet pour les communs numériques, puisque Wikipédia est mentionné. La communauté Wikipédia attend ça avec impatience. Et on a aussi des entrepreneurs privés hein, qui peuvent nous répondre là-dessus. Pour pouvoir bah, vous faciliter aussi le travail. Donc vraiment, on attend que vous.
Peut-être une dernière question et après on devra arrêter.
C'est pas une question, c'est une idée. Est-ce que une association entre vous, un regroupement, une revue qui soit gérée par quelqu'un qui regroupe toutes vos idées. Voilà.
Le secteur Ricard. Hein.
C'est déjà de travailler, de faire des formats interopérables. Ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire, aussi, c'est pas avoir la prétention de quelque chose qui va tout marcher, qui ne va pas. Donc, d'avoir des données sourcées, d'avoir des métadonnées, des formats d'échange. À chaque fois que l'on fait, je pense, une interface entre deux plateformes, entre un ancien corpus existant, une nouvelle chose, on va dans le sens de l'interopérabilité. Donc, voilà. Donc, et puis, plus.
Ça permettrait d'avoir une visibilité de l'extérieur, peut-être.
Mais on pourra parler justement, donc demain on aura justement d'autres sessions qui vont être plus tournées côté utilisation pédagogique, artistique, culturelle. Et on aura aussi un atelier justement pour ces questions, je pense un peu d'ouverture de recherche des données, donc ça sera aussi un moyen dans les discussions aussi informelles de voir quelles sont, d'améliorer dans la prise en compte des besoins, je pense, pour tout le monde.
Je vous remercie beaucoup. Nous allons clore cette session. Je voulais juste dire que justement, ces journées sont l'occasion de se poser ces questions et de discuter entre vous sur une meilleure façon d'apprendre les choses et d'avoir une meilleure communication vis-à-vis de toutes les personnes impliquées dans ces questions-là. Donc, merci encore à tous.